Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ses réponses aux prières. Merci Seigneur pour le soutien qu'il donne à nos esprits, à nos âmes, pour nous affermir en lui. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous vous rappelez peut-être, probablement, que mercredi dernier, nous avons commencé avec Ésaïe chapitre 1, verset 27, que je relis simplement pour nous rappeler le début de notre sujet. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Amen. Voilà, je vous rappelle que notre objectif, la dernière fois, nous avons pu voir à peu près la moitié, mais voulant Dieu voulant voir la deuxième partie maintenant, c'était les noms et appellations des croyants fidèles dans le livre du prophète Ésaïe, avec donc les promesses qui y sont rattachées. Et nous avons dit que ce passage d'introduction eh bien, nous rappelle qu'un croyant fidèle, ça commence par une conversion. Hein, verset 27, « Ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. » Cette conversion, cette expérience de la conversion, c'est là que tout commence. C'est ça qui nous mène au salut. C'est ce salut qui s'obtient par la justice de Christ, est-il dit là. Et puis ensuite, vous avez évidemment la marche dans la justice, ce changement radical de vie qui est exprimé par le verbe « se convertir ». Alors, je ne reviendrai pas en détail sur ce que nous avons déjà vu la dernière fois, mais nous nous sommes étendus tout d'abord sur une première appellation qu'on trouve beaucoup dans ce livre-là, c'est le mot « les serviteurs de Dieu ». Rappelez que c'est quelque chose qui se trouve des dizaines de fois dans ce livre, mais on avait spécialement insisté sur le passage d'Ésaïe 65, les versets 8 à 15. Voilà, ensuite, la deuxième appellation dont nous avions parlé, c'était les justes. Les croyants sont des justes. Et que nous avons rappelé l'importance, là aussi, du fait d'être dépouillé. Voilà. Merci. Donc, du fait d'être dépouillé de nos péchés, rendu juste par la justice de Christ, et ensuite marcher dans ce chemin de justice. Et nous avions vu que le passage qui exprime cela le mieux dans Ésaïe, c'est dans Ésaïe 33, versets 15 et 16. Et puis en troisième, nous avions parlé de ceux qui se confient en lui. Ça, c'était la troisième appellation, troisième caractère. Et nous avions lu surtout dans Ésaïe 64, verset 3, nous avons parlé un peu aussi de toutes les promesses qui s'y rattachent. Et nous avions cité encore six autres passages parlant de belles promesses pour ceux qui se confient en lui. Et puis en quatrième, nous avions parlé aussi des disciples. Dans le livre du prophète Ésaïe, vous retrouvez ce mot « disciple ». Les disciples, rappelons-nous, c'est ceux qui écoutent l'enseignement du maître, ceux qui le suivent et ceux qui suivent son exemple. Voilà, ils se laissent enseigner et conduire. Et là aussi, nous avions vu au moins deux passages, Ésaïe 8, verset 16, « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples ». Et Ésaïe 50, verset 4, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. » Et puis en cinquième, enfin, nous avions parlé des sentinelles. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient bien dans le livre du prophète Ésaïe. Ça nous appelle à cette nécessité de veiller, de rester sur nos gardes. Et là, nous avions aussi vu plusieurs passages parlant de la sentinelle. Donc, Ésaïe 21, verset 6, chapitre 52 aussi, verset 8, chapitre 62, verset 6. Et nous arrivons enfin maintenant à notre sixième point, et ce que nous n'avons pas parlé la dernière fois, mais que nous abordons maintenant. C'est ceux qui ont la crainte. Un vrai croyant, c'est quelqu'un qui a ce profond et saint respect accompagné d'une crainte, d'une peur de désobéir à Dieu. Il y a un amour en même temps qui est là. Là aussi, eh bien, dans le chapitre 50, au verset 10, nous lisons « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. » La crainte de Dieu nous est extrêmement salutaire. Il ne s'agit pas simplement d'une peur de Dieu, ce n'est pas ça la question. C'est vrai que Dieu, dans certains de ses aspects, il y a vraiment de quoi nous inspirer la peur. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pas que, Dieu merci, mais quand même aussi. Comment savoir si on craint l'Éternel? Eh bien, c'est lorsqu'on écoute. Lorsqu'on écoute la voix des serviteurs de Dieu. pas quand ils disent n'importe quoi, mais quand ils annoncent le message de l'Évangile et de la parole de Dieu. Hein, donc c'est à cela déjà qu'on reconnaît la réalité, la présence de cette crainte dans notre cœur. Le chapitre 66 au verset 2 nous dit, voilà ce que dit le Seigneur, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Alors dans le contexte, de quoi souffre-t-il ? Eh bien, il souffre à cause de l'incrédulité et du péché dont il est environné. C'est quelque chose qui le fait souffrir, ou l'a fait souffrir. Hein, donc, et il a l'esprit abattu, non pas par découragement ou par dépression, mais à cause de cette résistance, hélas, trop universelle, hélas, trop fréquente, cette résistance à Dieu autour de lui. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a vraiment à cœur la cause de Dieu et la parole du Seigneur. Alors, vous me direz, mais il y a une contradiction entre la joie, la paix, l'assurance du salut d'une part, et puis cette souffrance, cette tristesse de l'autre. Non, en fait, cette contradiction n'est qu'apparente. Cette contradiction n'est pas qu'apparente. Dans Ésaïe 66, au verset 5, nous lisons encore « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole ». Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Là aussi, de quoi s'agit-il ? Hein, ce qu'on reconnaît, donc, cette crainte, eh bien, c'est que à cette fidélité qu'il y a dans la difficulté, face à l'opposition. Hein, donc, ces frères, entre guillemets, dont il est parlé là, ne sont pas de véritables frères, en fait. Ce sont des frères selon la chair, mais ce ne sont pas des frères spirituels. Eux n'ont pas cette crainte du Seigneur dans leur cœur. Nous voyons qu'ils tentent Dieu, hein, d'après les paroles qu'ils prononcent. Ils provoquent Dieu, ils le mettent en doute. Ils critiquent et tentent aussi les fidèles. Et c'est pour ça combien il est précieux et nécessaire d'avoir cette vraie crainte de Dieu, de sa parole, qui nous garde des pièges de l'orgueil, de la présomption, et qui nous garde entièrement confiants dans sa parole. Hein, qui suis-je pour juger cette parole ? C'est bien plutôt à moi de m'y soumettre, même si je ne saisis pas tout pour l'instant, du commencement à la fin. Mais en tout cas, qu'il puisse en être ainsi. Amen. Notre septième point maintenant, que vous trouvez dans ce prophète Ésaïe aussi, ce sont les rachetés. Les rachetés. Hein, il est bon, nécessaire de nous souvenir toujours de cette dette de grâce qui ne pourra jamais être remboursée par nous. Nous avons été rachetés à un grand prix, l'Écriture nous le rappelle, par le précieux sang de Christ. Pas avec de l'argent ou de l'or. Hein. Ça, notre âme ne peut être rachetée par aucune somme d'argent possible. Hein. Mais nous avons été rachetés par ce précieux sang. Et il nous faut toujours nous en souvenir et garder une reconnaissance éternelle envers celui qui a payé un si grand prix. Dans le chapitre 35, au verset 10, il est écrit « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia !» Et vous avez la répétition de ce passage au chapitre 51 et au verset 11, exactement le même passage pour nous montrer combien il est précieux et combien il est important. Et puis au chapitre 63, au verset 4, il est marqué encore « Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. » Voilà, un jour viendra le temps où ceux qui sont des rachetés de Dieu seront mis en évidence par lui et seront glorifiés par lui. Et tous ces passages, vous le voyez, vont dans le sens de la rétribution, du rétablissement de la gloire de Christ et des rachetés, dans le sens de leur triomphe en Christ, dans le sens de cette manifestation du ciel de gloire. Et c'est pour ça que nous pouvons toujours bénir le Seigneur d'être des rachetés. Et que notre reconnaissance soit agissante pour qu'une vie si chèrement rachetée soit efficace pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et puis notre huitième dénomination dans le prophète Ésaïe, ce sont les saints. Les saints, S-A-I-N-T-S, donc. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi en plusieurs références. Au chapitre 4, verset 3, il est dit « Les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. » Voilà. Donc, et voyez le rapport direct qu'il y a entre vivants et saints. ceux qui sont vivants, vivants éternellement, vivants de la vie de Dieu, hein, c'est de cela qu'il est question. Et puis, il est parlé des restes. Alors, quels sont ces restes ? Eh bien, les restes sont ceux que, justement, qui demeurent après l'épreuve. Après, ben, justement, après, ben, malgré, après ces moments extrêmement difficiles que le monde est appelé à connaître encore, donc, et ceux qui restent ainsi. Ceux qui restent ainsi attachés au Seigneur. Chapitre 62, verset 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Peuple saint, ça veut dire mis à part. Vous savez, le mot saint, certains ont une mauvaise conception, je pense, du mot saint. Ils s'imaginent que quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est sans péché. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, oui, l'objectif, c'est d'être sans péché, évidemment. Mais en fait, le mot saint, ce n'est pas exactement ça que ça veut dire. Saint, ça veut dire mis à part. Mis à part dans un but, mis à part par quelqu'un. Lorsque nous sommes saints, nous sommes mis à part par le Seigneur pour quelque chose, hein, pour accomplir ses plans, accomplir sa volonté, accomplir la vocation qu'il a prévue pour nous. Et nous voyons ainsi qu'il est question d'un peuple mis à part. Hein, ce n'est pas seulement des personnes, des individus séparés, mais il est question d'un peuple. D'ailleurs, vous retrouvez cette même idée dans le chapitre 63 et au verset 18. « Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. » Eh oui, c'est un constat. Ben, tant qu'ils ont été saints, ils ont possédé le pays. Le jour où ils n'ont plus été, ils l'ont perdu. Hein. Et donc, ça nous montre aussi combien cette qualification est importante. Et puis, notre neuvième chapitre, il y en a 10, hein, notre neuvième chapitre, il est question là de ceux qui persévèrent. Le neuvième point, c'est ceux qui persévèrent. Et là aussi, vous avez plusieurs références dont nous pouvons citer essentiellement deux. Chapitre 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme dans ses sentiments. Vous connaissez la versatilité naturelle des sentiments. Hein, sentiments affectifs, familiaux. Dans la vie, il ne faut pas qu'on soit conduit par nos sentiments. Les gens qui sont conduits par leurs sentiments ne sont pas des gens stables. Hein. Je ne veux pas dire que les sentiments n'ont pas de valeur. Hein, les sentiments ont leur place, ils ont leur importance. Mais vous savez, dans la vie, il faut être conduit par des convictions, il faut être conduit par des principes qui nous tiennent. Et il faut que ce soit ça qui nous conduise. Hein, je dirais que quelque part, si on veut prendre une image, la locomotive de notre vie ne doit pas être les sentiments. Les sentiments, c'est un très bon wagon, hein, mais la locomotive, ça doit être autre chose. La locomotive, ça doit être, ben pour nous, ce qui nous concerne, eh bien, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Et puis nos sentiments, ben, ils vont suivre. Et alors, à ce moment-là, ils ne seront pas déséquilibrés. À ce moment-là, ils seront vraiment à leur place. Et à ce moment-là, ils seront bien, ils seront bénéfiques. Et ça, c'est donc aussi primordial. Alors, la question, c'est comment avoir des sentiments affermis ? Eh bien, là encore, nous le voyons en subordonnant toute chose à la parole de Dieu, lorsqu'il est marqué au chapitre 32, au verset 8 encore, « Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Hein, » donc, c'est une question de persévérance, fermeté, de persévérance. Être noble, il faut qu'on soit noble, il faut qu'on ait des désirs nobles. Il ne faut pas qu'on soit bas, il ne faut pas qu'on soit mesquin, hein, faut pas qu'on soit petit dans le sens de petites façons de faire, vous savez, qui sont pas glorieuses, etc. Non, il faut que nous ayons des objectifs et des idéaux qui soient élevés. Hein. Ça, c'est important. Il faut se laisser attirer par ce qui est beau, ce qui est élevé, hein, que le Seigneur nous aide à véritablement fortifier nos cœurs dans cette direction-là et à persévérer ainsi. Se fixer de tels objectifs avec le secours d'en haut. Alors, lorsqu'on va agir de cette manière, lorsqu'on va se dire, eh bien voilà, je veux persévérer dans ces nobles desseins, eh bien, avec le secours du Seigneur, on va pouvoir être fortifié parce que l'usure va venir, vous savez. Et puis les coups de boutoir aussi de la part de l'adversaire. Et donc, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas perdre, il faut vraiment les tenir et il faut y persévérer. Alors, rejetons, bien sûr, toutes ces choses et persévérons dans ces nobles desseins. Quels sont-ils, ces nobles desseins? Eh bien déjà, par exemple, l'obéissance à toute la parole de Dieu. Ça, c'est un noble dessein. Hein, pas simplement, je ne sais pas moi, faire le tri dans ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas. Non, obéir à toute la parole de Dieu, avoir cela à cœur. Une consécration totale au Seigneur. Ça, c'est un noble dessein aussi. La fidélité dans toute la maison de Dieu. Avec le secours du Seigneur également, bien sûr, nous avons besoin. Et puis l'annonce de l'Évangile, quel beau et noble dessein que celui-là, d'être les témoins du Seigneur autour de nous, hein, dans les possibilités qu'on peut saisir et là où il nous place. Une vie de simplicité pour Dieu, hein, ça aussi c'est un noble dessein. Et c'est quelque chose également de précieux, hein, de consacrer véritablement nos vies à sa cause. Voilà de nobles desseins, persévérons-y avec son secours. Amen. Enfin, notre dixième point nous parle de ceux qui luttent pour Dieu. Lutter pour Dieu, et oui, c'est vrai, hein, nous vivons dans un monde où il faut lutter. Il faut combattre, vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est la réalité. Chapitre 13, verset 3, nous lisons, voici ce que dit le Seigneur. « J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. » Alors, lorsque vous lisez ça un petit peu, reprenez ça un petit peu en détail, vous voyez qu'il y a là tout ce qu'il faut pour le bon combat. Vous avez déjà le fait de faire partie d'une armée, puisqu'il est question, vous voyez là, de milice. Hein. Vous avez aussi une discipline qui est là. J'ai donné mes ordres, dit le Seigneur, à cette milice. Vous avez aussi une réponse à l'appel, bien sûr, qui a été donné. Vous avez un idéal, hein, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Donc, vous avez une bannière aussi, il est question là également, c'est le verset juste avant, il est question de la bannière du Seigneur. Et puis vous avez une valeur, il est question de héros hein, dans ce verset-là. Et puis vous avez aussi un moral, parce qu'il faut aussi avoir le moral, ils se réjouissent. Hein. Et nous avons des raisons nombreuses et excellentes de nous réjouir dans le Seigneur. Et puis si je poursuis maintenant, j'ai encore un autre texte dans Ésaïe 28 au verset 5 et 6. En ce jour, l'Éternel des armées sera, et là je saute une partie du passage, une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. En ce jour, l'Éternel des armées sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Amen. Le Seigneur veut nous fortifier d'une façon admirable. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il veut nous fortifier. Mais pour ça, il faut quand même... Le Seigneur ne va pas nous fortifier simplement pour qu'on fasse, je ne sais pas, moi j'ai rien contre la musculation, au contraire, pas un problème, mais il faut que ça puisse servir à quelque chose. Hein. Donc c'est pour combattre l'ennemi, en tout cas spirituellement, je veux dire, hein. La musculation spirituelle, si je peux parler ainsi. Hein. Donc il est marqué, repousser l'ennemi, le repousser l'ennemi en dehors de chez soi, c'est déjà une chose, mais là ça va plus loin. C'est repousser l'ennemi jusqu'où? Jusqu'à ses portes à lui. Hein? Donc voilà, repousser l'adversaire. Donc là, vous avez non seulement la défense, qui a toute sa place, c'est vrai, mais c'est aussi l'attaque, c'est le repousser pour le vaincre. Et c'est de cette manière, c'est la condition, c'est quand on a ça dans notre esprit, que le Seigneur va nous fortifier puissamment. Hein? Et c'est ainsi qu'il est dit, par exemple, « Vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Hein? Ben vous recevrez cette puissance, pourquoi? Parce que vous avez à cœur d'être mes témoins, c'est pour ça que vous l'aurez cette puissance-là. Et c'est dans ces conditions-là que cette puissance se manifestera aussi. Hein? Donc vous voyez, que de belles promesses de la part de notre Dieu. Quels encouragements à marcher pleinement en lui et pour lui. Et je reprends maintenant en conclusion cette dizaine de dénominations hein, du croyant, serviteur de Dieu en premier, hein, en deuxième, rappelez-vous, juste, marchant dans la justice, troisièmement, se confiant en lui, quatrièmement, disciple, cinquièmement, sentinelle, sixièmement, ayant la crainte de son nom, de sa parole, septièmement, des rachetés, huitièmement, des saints, neuvièmement, persévérant, et dixièmement, luttant pour Dieu. Voilà. Et puis vous savez, vous pouvez prendre toute la Bible, hein, parce que, rappelez-vous, Ésaïe a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc ça veut dire que 8-9 siècles plus tard, lorsque le Nouveau Testament a été écrit, vous apercevrez que ces dénominations-là, elles correspondent parfaitement avec ce qu'a enseigné le Seigneur Jésus ou ce qu'ont enseigné les apôtres, hein, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Vous voyez bien que y a vraiment une unité de message. Et dans toute la Bible, c'est comme ça d'ailleurs. Hein. Vous remarquerez ça. En tout cas, Ésaïe ne départ pas du tout. Et ses puissantes assurances de sa part et sont des motivations pour nous pour aller de l'avant avec assurance. Et donc, dans cette vocation, ce combat où le Seigneur veut nous rendre victorieux par son secours fidèle et puissant. Béni soit son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur, c'est toi encore qui nous soutiens par ta parole et qui nous montre quel est ton désir pour nous, Seigneur, quelles sont ces indications que tu nous donnes, et puis en même temps les promesses, Seigneur, en même temps le puissant soutien que tu nous assures. C'est cela aussi qui nous réconforte, Seigneur, c'est cela qui nous encourage, parce que sinon, avec nos propres capacités, nos propres forces, nous ne pourrions évidemment pas y parvenir. Mais Seigneur, nous te remercions, parce que lorsque nous confions en toi, lorsque nous fixons les yeux de nos cœurs sur toi, Seigneur, bien, nous voyons que tu nous conduis dans le bon chemin, nous voyons que tu nous aides à aller de l'avant, nous voyons que tu exauces les promesses, les prières, Seigneur, nous voyons que tu accomplis ta parole et tu veux encore le faire pour chacune et chacun d'entre nous, et aussi pour ceux que nous avons à cœur, Seigneur, pour ceux que nous te présentons, ceux que nous avons cités dans nos sujets de prière, ceux que nous te présentons encore maintenant, Seigneur, dans ces prières que nous allons pouvoir faire monter vers toi tour à tour en les accompagnant de notre approbation à chacun. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Jésus, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te remercions puisque tu es toujours fidèle et bon. Et toujours attentif, patient à notre égard, Seigneur, pour écouter nos prières, Seigneur, usant de beaucoup de miséricorde et de compassion à l'égard de chacun, Seigneur. Et c'est tout cela aussi qui nous donne de l'assurance, qui nous donne du réconfort et qui nous donne la certitude que tu agis encore, que tu réponds encore. Béni soit ton nom, Jésus, pour ces divers sujets, ces divers besoins. Nous nous confions en toi, nous te glorifions de tout cœur, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, merci Seigneur, béni soit Dieu. Et nous avons quelques annonces. Prédication en ligne, donc vendredi à 20h15 sur le site de l'église. Sinon, la réunion de frères doit avoir lieu samedi à 14h30. Alors, on n'aura pas d'évangélisation dans les villages ce samedi-là. Donc, samedi qui vient, il y a à cause de ça. Je vous rappelle, hélas, le changement horaire dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà. Et le culte dimanche à 8h30 et à 10h45, donc vous pouvez vous inscrire pour l'un ou pour l'autre sur le site de l'église ou par téléphone. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de journée à tous.